Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on va parler du pistolet électrique Taser avec le REDH, le réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme. Vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui donc on va discuter du pistolet électrique, le Taser, qui est d'actualité. Donc en septembre 2009, il y a le Conseil d'État qui a annulé le décret autorisant les policiers municipaux donc à se doter de Taser. Donc ça, c'était lié à la campagne du REDH. Donc on a aujourd'hui deux représentants du REDH, Fabrice et Cathy. Peut-être vous pouvez commencer par présenter le REDH, donc le réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme.
Bonsoir, merci d'abord de nous recevoir, ça fait plaisir d'avoir un petit peu la parole. Donc REDH, Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme, on est au départ un groupe de militants des droits de l'homme qui avons tous été soit membres, soit salariés d'associations comme Amnesty International, Ensemble contre la peine de mort ou d'autres, qui avons choisi de nous mobiliser, notamment à partir des années 2000-2001, sur des questions de droits de l'homme qui nous semblaient ne pas être assez portées par ces structures. Et notamment, on a commencé à travailler sur la question des violences policières. La première action qu'on avait menée, c'est de faire ce qu'on avait appelé le kit keuf, qui visait à faire connaître les droits et les devoirs des citoyens face à la police. On est un noyau dur d'une vingtaine de personnes, composé principalement de juristes, de communicants, communicants, de politologues et de sociologues. On est une association qu'on veut un petit peu souple, hein, c'est-à-dire qu'on est tous engagés au niveau de nos jobs différents et nos différentes activités militantes. Du coup, on est un réseau pour garder aussi cette forme de souplesse, avec des vocations beaucoup plus larges que la seule violence policière.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est créé tout simplement, comme tant d'autres associations, le soir du 21 avril 2001, qui était le premier électrochoc pour donner suite à ce qui sera notre conversation tout à l'heure sur le taser. Et on avait souhaité en fait se mobiliser pour rappeler que voilà, dans un pays comme la France, ce jour-là et à cette période-là, il y avait un danger imminent de violation complète de nos droits les plus fondamentaux. Et on s'était dit, mais c'est quand même pas possible que les associations de défense des droits de l'homme classiques ne voient pas dans quelle situation on est ce jour-ci. Donc tout simplement, on s'est mis ensemble, donc ces jeunes militants, voilà, certains étaient objecteurs de conscience, d'autres salariés d'ONG, et
stagiaires.
On a organisé, stagiaires, exactement, et on a organisé un rassemblement en utilisant de manière complètement instrumentale le fichier presse de certains nombres d'associations. On a dit, on organise une manif sur les marches de l'escalier de l'Opéra Bastille. On a organisé ça à 20h30, on a été suivi par... deux télévisions, une radio qui ont eu la gentillesse de nous cadrer vraiment serré alors qu'on était une petite dizaine avec un pot fumigène. Et de là, en fait, des dizaines, des centaines, puis des milliers, puis une dizaine de milliers de personnes nous ont rejoints à l'Opéra, puis après donc à la Bastille, puis ça s'est transformé en magnifique manifestation, certes tardive, mais on s'est dit, en fait, peut-être que ce qui manque, c'est être un moment, l'étincelle, tout simplement. On n'a pas besoin d'être un grand mouvement hyper structuré, on n'a pas vocation à se professionnaliser, à devenir une grosse orga, mais peut-être que, avec nos compétences, les uns les autres, on peut peut-être être en mesure d'être... un petit groupe qui puisse montrer du doigt ce qui pose problème, et notamment des problèmes qui ont du mal à émerger. Et typiquement la question des violences policières, c'est pas pour rien qu'on a travaillé sur cette question-là, c'est que c'est un thème récurrent qui fait de temps à autre la une des journaux, mais on n'a aucune solution. C'est un peu comme le mauvais temps, faut attendre que ça se passe, et finalement structurellement personne s'attaque à cet enjeu-là, qui nécessite un suivi, qui nécessite des juristes, qui nécessite de voir les cadres légaux d'intervention de la police. Et c'est pas très sexy, c'est pas très sympa, c'est pas parfois fatigant. Et après, tout simplement, quand on s'attaque à la police, sur Radio Libertaire, vous devez le savoir, c'est quand même parfois prendre des risques, c'est-à-dire c'est ne pas avoir de subventions, c'est être limité dans son champ d'action. Et donc ça supposait d'être un peu... d'avoir pas peur de prendre certains défis, et c'est le résultat des courses, on en parlera plus tard, mais c'est pas avec la police ou avec l'État qu'on a le plus de problèmes, mais avec des compagnies privées qui bénéficient de cette politique sécuritaire. Et ce dont on parle très rarement, c'est que le champ économique, en fait, sur le politique, il est de plus en plus puissant, et on se rend compte même que maintenant, même l'État a peur des acteurs économiques, et notamment du fameux, on utilisera un bon terme, mais complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que il y a des intérêts privés qui sont d'une telle importance que même les parlementaires, même le gouvernement, même quand ils sont pas nécessairement en faveur du tout sécuritaire, c'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'on essaie quand même de pas se froisser avec des acteurs qui ont un tel poids.
Et concrètement, alors, vous menez des campagnes sur des thématiques, donc des campagnes d'information, et là je pense notamment aux violences policières. Est-ce que vous soutenez des personnes individuellement, ou est-ce que c'est plutôt à un autre niveau que vous agissez, comme pour le taser? Enfin, je sais pas.
En fait, on aimerait vraiment pouvoir le faire. On a eu pas mal de demandes, puisque de fait, il y a peu de structures aujourd'hui qui peuvent prendre en charge le type de témoignages, de bavures, etc. En fait, on a deux formes de campagnes. On a les campagnes qu'on mène nous-mêmes. Ça a été le cas sur le kit cuff, sur le taser. Et là, on va lancer une nouvelle campagne sur le slap. On en parlera après. Et on est intervenu aussi en soutien à des associations. On se positionnait un petit peu en bras armé d'associations qui pouvaient pas, pour des tas de bonnes raisons, prendre la parole, faire des happenings, s'exprimer au niveau de la presse. On a soutenu notamment l'association Ensemble contre la peine de mort sur je crois que c'était le 3e congrès mondial contre la peine de mort à Montréal. On a soutenu à l'époque la coalition 2005 Plus d'excuses, qui rappelait au gouvernement, aux différents gouvernements, leurs engagements en matière d'aide publique au développement. D'ailleurs, la campagne est relancée avec la coalition de lutte contre la pauvreté. Je me trompe certainement dans le nom. Voilà, on soutient ponctuellement un certain nombre d'associations dont on est proche parce qu'on en est membre, parce qu'on en est salarié et on essaye de se mobiliser autant que faire se peut. Après, pour ce qui relève de prendre en charge des cas de personnes qui sont confrontées à des violences policières notamment, on a mis en place le kit CAF justement déjà pour donner une information sur les différents recours qui étaient possibles au niveau de l'IGS, de l'IGPN. On essaye de les rediriger vers des avocats. On manque concrètement aujourd'hui de temps et de moyens pour pouvoir suivre ces cas très concrètement. On aimerait vraiment beaucoup pouvoir monter une cellule d'assistance juridique qui soit efficace, puisque en général les gens ont un dossier absolument complet mais n'ont pas les moyens de porter ça au niveau de la justice.
Voilà, et de manière générale, en fait, quand on est, on en a des demandes, voilà, directement, on essaie de mettre en relation avec l'association, ou parfois même des avocats en direct, telle manière à ce que ces personnes puissent saisir la justice. Et ça fait partie, je dirais, vraiment des fondements de Redache. Hein, au départ, il y a plein d'associations de défense des droits de l'homme qui sont beaucoup plus professionnelles que les nôtres, qui ont des vrais juristes, des vrais avocats, des ténors du barreau, qui sont en mesure d'avoir un accès privilégié aux médias de masse. Ça, c'est pas le problème. Nous, ce qu'on souhaitait vraiment, c'était essayer d'engendrer un mouvement où, en France, on utilise le droit comme une arme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements sociaux, contestent, manifestent avec différents types d'actions, différentes méthodologies. Mais à l'heure où on a un Parlement au pouvoir pour le moins limité, on a un gouvernement qui n'est pas nécessairement à l'écoute de la société civile. Mais voilà, il y a deux autres pouvoirs, ce sont les médias, donc ça on en use et parfois on en abuse très clairement, et on saisit désormais, on encourage tout le monde à saisir tout simplement le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, alors certains vont faire des grandes critiques, voilà, évidemment sur le, et ce qui est vrai d'ailleurs, sur le poids du gouvernement sur la décision du procureur, sur la carrière des juges, sur les fameuses questions liées aux juges d'instruction qui sont actuellement de vrais débats, mais très sincèrement, nous, selon nous, plus les gens sont en mesure directement de saisir la justice, qu'il s'agisse du Conseil d'État, ce que nous avons fait, hein, autant au niveau administratif qu'au niveau pénal. Il y a un moment, ben voilà, s'il y a un policier qui ne respecte pas un certain nombre de procédures dans un état dit de droit, si personne n'attaque, je veux dire, il ne se passera jamais rien, quoi. Donc l'objectif, c'était aussi pour nous de faire jurisprudence et que plus les commissions type IGS, IGPN, donc les polices des polices, reçoivent de dossiers, plus à un moment, quand même, on donne une certaine visibilité à tous ces problèmes-là. Donc ça, c'était vraiment le cadre général, et on a le sentiment que maintenant, on commence à être entendu. Il y a de plus en plus d'associations qui ne sont pas du tout dans notre domaine, dans le domaine des locataires, dans le domaine des jeunes précaires en stage. Il y a un certain nombre de mouvements maintenant qui utilisent de cette arme, et ça, maintenant, voilà, ça, on en parlera peut-être après, mais c'est une réflexion qu'on essaie d'avoir. En collectif, nous, on ne travaille pas nécessairement de manière très formelle, avec une grosse campagne, des grands moyens, mais c'est plutôt un réseau d'individus, de personnalités, de groupes dits d'affinités, et ça marche très bien comme ça. Et c'est vrai qu'on a aussi, au fur et à mesure de nos actions, eu un accès privilégié à la presse, assez curieux, c'est assez curieux, puisque pour nous, voilà, il fallait être une grosse association, être très connue, mais en fait, il suffit juste à un moment d'avoir un message un peu dissident formulé autrement que par un communiqué de presse qui fait 50 pages, revu par 2000 juristes, et du coup, il n'y a plus aucun sens. Bon, voilà, on a un peu saisi quelles étaient les conditions de production du journalisme. Ben voilà, il y a des milliers de journalistes qui vivent comme ils peuvent en essayant de faire du papier à peu de frais, et nous on a saisi ça. Et donc voilà, si on donne à un journaliste des éléments d'information qui lui permettent de faire sa brève en 15 minutes, on a bien conscience que ça aide à être relayé d'une manière ou d'une autre.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez porté l'affaire du taser devant le Conseil d'État, et en septembre donc 2009, donc le Conseil d'État a annulé le décret autorisant les policiers municipaux à se doter de taser. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le taser, hein ?
Alors, le taser, c'est un pistolet électrochoc. Alors, évidemment, son producteur préférait appeler ça un pistolet...
Impulsion électrique.
Électrique pour certains, mais lui, maintenant, il l'appelle un pistolet à impulsion électronique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris une décharge électronique. Ça doit faire beaucoup moins mal qu'une décharge électrique. Et enfin, le fait est que ça adresse quand même une décharge de 50 000 volts, hein, avec certes un ampérage faible, paraît-il, mais il suffit, je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs ont vu certaines vidéos pour voir que ça fait mal, ça a l'air très très douloureux. Et le problème, c'est que cette arme, d'une part, on peut lui adresser en direct une décharge de plus de 5 secondes, hein. Et surtout, on peut à chaque fois rappuyer donc, sur la gâchette et ça vous réadresse une décharge de 5 secondes. Et on a des cas de personnes qui sont prises 17 fois 5 secondes. Voilà, ça, c'était pas en France en l'espèce. Mais il faut quand même voir que pour nous, hein, pourquoi on a travaillé sur cette arme. Évidemment, il y a des armes. Enfin, toute arme, évidemment, par la définition, est dangereuse. Mais elle nous a été vendue comme, je dirais, voilà... une civilisation de la violence maîtrisée, il n'y a pas de sens, absolument magnifique, c'est à distance, l'arme parfaite, l'arme qui ne tue pas, l'arme non létale. Alors nous on se demande ce que c'est, une arme non létale, hein, mais même quand on était au cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque, on nous a bien dit, mais évidemment qu'il n'y a pas d'arme non létale, hein, vous prenez un annuaire, vous pouvez tuer quelqu'un, eux-mêmes ne s'accordaient pas sur ce thème, mais vraiment, en termes commerciaux, évidemment, c'est magnifique, une arme qui ne tue pas. Voilà. Donc elle nous a été vendue comme ça, et évidemment, elle a été instrumentalisée politiquement, parce que pourquoi on arme nos policiers en France d'une arme qui permet d'adresser une décharge de 50 000 volts.
Sachant Pourquoi ? Qu'elle était présentée pour éviter que la police ait recours aux armes à feu. Et c'est un argument qui a très bien fonctionné aux États-Unis. Et en France, on était un petit peu plus sceptiques sur cet usage des armes à feu et sur une alternative nécessaire aux armes à feu. On a eu beaucoup de mal à avoir les chiffres. Il y a un chercheur qui s'appelle Fabien Jobard qui a des chiffres très intéressants et qui dit qu'en moyenne, c'est 0,3 tirs pour 1000 policiers en France. Donc autant dire qu'on nous a créé un problème qui nous semblait... plutôt inexistant et que la proposition commerciale avait l'air disproportionnée par rapport à la demande. Et donc on nous a présenté ça comme une arme qui était censée protéger la police. Alors nous, on n'a absolument rien contre la police, malgré un certain nombre de personnes qui voudraient nous faire passer pour des anti-flics. Mais non, on est des militants des droits de l'homme, hein, donc c'est absolument pas le propos. Mais il semblait que le paradigme de base était un petit peu étrange.
Voilà. Et pourquoi donc on a utilisé cette arme? Pourquoi on l'a vendue? Ben, ça permet de rassurer le bon peuple. Nous sommes là, nous allons vous occuper de vous, n'ayez crainte. Alors en fait, en termes d'impact, l'impact de l'usage de cette arme dans les relations entre citoyens et policiers, vous pensez bien que c'est pas parce que il y a une altercation où il y a une moindre violence que la personne en question se dit « Oh, alors, attention, je risque de prendre 50 000 volts ». Enfin, franchement, c'est une totale... voilà, ça participe de l'idéologie sécuritaire que vous connaissez certainement mieux que nous dans cette émission. Mais très sincèrement, voilà, c'est juste... s'assurer à peu de frais une communication grand public. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre de maires se sont dit, ben voilà, moi je vais équiper mes policiers municipaux de taser. Ça sert à quoi? Franchement, vous passez sur TF1 aux 20h. Voilà, ça sert à ça. Mais il y a des mairies qui ont acheté un taser. Et donc, à très peu de frais, je suis là, je rassure mes petits citoyens, n'ayez crainte, je m'occupe de vous. Mais structurellement, évidemment que c'est bien plus complexe que ça. Enfin, ça serait s'il suffisait de donner des nouvelles armes à tous les policiers pour que voilà, nous vivions dans un pays civilisé et auquel cas n'aurions plus aucun problème. Donc il y a un vrai une instrumentalisation. On prend vraiment les gens pour des idiots. Et à côté de ça, il y a quand même un vrai problème. C'est en termes sanitaires. Enfin, c'est tout bête, mais sur quoi on se bat-on pour dire, ben voilà, on va acheter une arme, on va en doter nos policiers nationaux, nos CRS, nos gardiens de prison, nos policiers municipaux. Mais comment on a testé cette arme? D'où elle vient? Pourquoi? Donc, il y a eu des tests, soi-disant. Donc, voilà, en début, je pense que c'était courant 2004-2005. En France, il y a le GIGN, le GIPN, différentes BAC qui ont eu usage de cette arme. Et on s'est rendu compte, voilà, vraiment par hasard, en faisant des recherches, qu'il y a en France 130 personnes qui sont pris un coup de taser dans cette période dite de test. Très bien. Donc on teste sur les gens, un peu comme sur des animaux, et donc en conditions réelles, et on utilise cette arme. Ouais, on s'est dit. Et alors, ce dont on a eu connaissance, c'est que l'institution qui dépend de la police nationale tirait des conclusions positives de l'usage de cette arme. Formidable, voilà.
Bah, mais où est le rapport
donc, le rapport, voilà. On souhaite avoir le rapport. On ne doute pas un instant que cette arme est absolument magnifique, mais on n'a jamais eu ce rapport. Donc, on l'a demandé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On ne l'a jamais eu. Résultat des courses, hop, Le taser fait l'objet, donc à l'époque c'était un pistolet à impulsion électrique, d'un appel d'offres. Appel d'offres remporté évidemment par la seule société qui était basée en France qui permettait visiblement d'y répondre. Et donc voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de nos contribuables qui alimentent donc l'achat de ces fameux pistolets. Et aujourd'hui il y en a 4000 hein, qui dotent actuellement les policiers nationaux et les gendarmes de ce pays. Donc sans aucune étude indépendante, impartiale, enfin voilà, maintenant on met un yaourt sur le marché, vous pensez bien qu'on on étudie les effets, on regarde s'il y a des EGM, on prend les précautions indispensables. En France, il y a un principe de précaution qui est désormais constitutionnel. Et non, mais là, on balance une arme qui adresse 50 000 volts, et voilà, si je puis dire, c'est la fête au village.
Sachant qu'il faut savoir qu'il y avait eu des rapports, puisque le taser avait été implanté aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays, et Amnesty International États-Unis et Canada avaient sorti un certain nombre de rapports où ils s'inquiétaient très clairement du danger de l'arme et surtout de la disproportion de son usage. Et il y a un rapport en 2006 qui est sorti qui attestait que 291 personnes étaient décédées des suites de l'usage du taser. Alors toute la difficulté était de faire la corrélation entre le taser et le décès, puisqu'il y avait toujours soit une personne qui était sous l'usage de substances, de drogues ou d'alcool, ou qui avait des problèmes cardiaques. Donc à chaque fois, Taser s'en sortait très bien et n'était pas attaqué directement pour ces questions. Mais au moment où ça a été implanté en France, il y avait quand même un certain nombre d'organisations de la société civile, et pas des moindres, qui étaient intervenues sur cette question.
Voilà, alors nous, on a travaillé avec des parlementaires, donc voilà, on n'a aucune connexion, jusqu'à présent, on n'avait aucune connexion avec quelques partis ou parlementaires que ce soit. On a balancé ça à l'ancienne, c'est-à-dire on balance des emails à 100% des députés, 100% des sénateurs, on n'a peur de rien. Et curieusement, voilà, on voit qu'in fine, il y a 17 parlementaires quand même qui posent une question écrite à l'époque à Nicolas Sarkozy, puis à... comment elle s'appelle ?
Michèle Alliot-Marie.
Merci. Elle est tellement silencieuse, on la voit tellement peu quand on se demande où elle est passée. Et voilà, on a eu ce soutien et force est de constater que le gouvernement est resté sourd à nos attentes.
On va passer un petit morceau de musique. Tout à l'heure, on écoutait Arch Woodman et là, on va écouter Manu Solo.
Depuis quelque temps, je le sens, un son nouveau courir sous ma peau, qui accompagne les fous battements de mon cœur, sourdement, sourdement, ça cogne là-dedans, et de loin en loin, ça se rapproche, une marée de triple croche qui martèle les clous de ma nouvelle maison au rythme d'un tout qui m'invite à la passion, et je taille ma route. Rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie et je taille ma route. Plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie avant coup de fusain. Le pavé. Et chaque jour il devient plus fort dans chaque partie de mon corps, ignorant les dérives, bousculant les fatigues, il pousse mon âme vers l'avant, alors que sorti du tempo. musique, je me déroule la tripe. Le son du tambour est mon meilleur ami. Chaque jour, il me ramène la vie. Il bouscule mon sommeil, me promet mots et merveilles, et donne au temps sa propre mesure.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les Amis d'Orwell et on a donc pour invité Fabrice et Cathy du réseau REDH, le réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme. Donc on est en train de parler du pistolet électrique Taser qui est paralysant, donc qui envoie une décharge électrique de 50 000 volts pendant au moins 5 secondes et qui en fait coupe la liaison entre le cerveau et les muscles. Donc ce qu'il faut savoir, tout en étant prudent sur les mots, c'est que 351 personnes sont mortes après avoir été touchées par ce pistolet. Donc vous pouvez peut-être nous dire, donc vous avez produit un rapport donc en mai 2006 sur le Taser, est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a amené à vous intéresser précisément à ce pistolet, puisqu'à l'époque je crois qu'on n'en parlait pas encore autant qu'aujourd'hui hein.
Oui, ben en fait, c'est tout simplement, comme maintenant beaucoup de choses, on a pris connaissance de l'existence de cette arme sur Internet à travers un blog où on voyait cette arme et du coup, on s'était rendu directement sur le site de l'entreprise. Et ce qui est assez marrant dans ce type d'entreprise, donc qui est une entreprise qui est Taser International, qui est basée en Arizona aux États-Unis, c'est qu'ils ont des instruments de communication tout à fait novateurs, avec des vidéos, mais qui sont à destination d'un public américain. Et donc, ce qui était assez formidable dans cette vidéo, c'est que on insistait sur les chiffres, 50 000 volts, on tire à plusieurs pieds, foot, comme on dit là-bas, c'est magnifique, on voit une personne en cellule se prendre un coup de taser, tomber la tête la première contre un banc, une vache, enfin une énorme vache, un comme taureau, ils les ont aux États-Unis, un taureau complètement OGMisé qui s'écroule. Enfin, on se dit mais c'est quoi ce truc, enfin, c'est vraiment c'est de la science-fiction, c'est pas possible. Et franchement, bah d'ici, voilà, on en rigole quoi. C'est vraiment ces Américains, voilà. Et jusqu'au jour où on entend que il y a un discours au préfet qui est donné par Nicolas Sarkozy qui indique que bientôt les policiers seront dotés de cette arme. Sinon, c'est pas possible, on a mal entendu, on regarde bien. En plus, le nom de l'arme qui est sous copyright, on a appris à nos dépens à le savoir, que des tasers seront remis aux policiers dès l'année prochaine. Donc là, vraiment, immédiatement, on réagit, on se dit c'est pas possible, un truc comme ça va pas être chez nous, non pas qu'on souhaite ça aux Américains, mais très sincèrement, on se dit, c'est du délire, quoi, on va pas commencer à tirer 50 000 volts pour un oui ou pour un non, pour un feu rouge passé, ou dans n'importe quelle condition, c'est pas possible, quoi. Surtout, on avait bien conscience de qui seraient les personnes qui seraient visées par ce type d'arme, hein. Voilà, ce sera rarement, de manière très improbable, dans les beaux quartiers parisiens ou de Neuilly. Et donc là, immédiatement, on s'est dit, ok, on va essayer de faire, au lieu de faire un communiqué de presse en hurlant je ne sais quoi, on va faire une vraie recherche. Donc là, on a mobilisé les quelques neurones qui nous restaient pour faire une recherche vraiment approfondie sur cette arme, sur ses effets en termes de santé, sur ses effets en termes de douleur, comment on pouvait rendre ça en perspective avec les normes internationales de défense des droits de l'homme. Il y a beaucoup de conventions, dont la convention quand même contre la torture, dont la France est signataire et évidemment l'a ratifiée. Et on regarde également ce qu'on fait rarement d'ailleurs dans nos mouvements, la structure de l'entreprise. Donc Taser International, voilà, c'est une boîte qui est cotée au Nasdaq, qui a eu un taux de croissance absolument fabuleux, des dizaines de milliers de policiers qui sont dotés de cette arme aux États-Unis, une communication hyper bien huilée, c'est-à-dire dès qu'il y a un pauvre mec qui se fait taser, un méchant criminel, et l'arme a été utilisée, hop, immédiatement, on écrit un communiqué de presse, dès qu'il y a le pauvre comté de je ne sais pas quel bled paumé du fin fond du Texas qui a acheté 3 tasers, ça fait l'objet d'un communiqué de presse. Et il y a une super utilisation, vraiment, pour le coup, vraiment intelligente des médias, notamment qui reprennent en fait automatiquement leur communiqué de presse. Vous savez, sur Internet, c'est facile de se faire référencer. On met ça sur une base de données de relais presse, des trucs qui automatiquement balancent ça, tous les communiqués de presse. Et on se retrouve automatiquement dans les actus de Google. Et donc là, on fait un carton, enfin, le message passe. C'est la fête. Et donc, on va quand même voir, on a un petit réseau, on va voir des amis aux États-Unis. Tiens, voilà, tu pourrais pas nous donner les infos. Qui sont les actionnaires? Tiens, on se rend compte qu'il y a des actionnaires français qui sont retirés d'ailleurs depuis notre rapport. On les salue, on les remercie. Et donc voilà, on essaie vraiment de faire ça de manière assez, je dirais, la plus intelligente possible, en ayant à l'esprit qu'en face, on n'a pas des gens qui sont nés de la dernière pluie et qui sont vraiment rompus aux techniques de communication. Ils sont loin d'être bêtes, hein, les gens de Taser. Et d'ailleurs, ça devenait presque même un jeu parce qu'on est bien conscient quand même de tout ce qu'il y a derrière. Et donc, une fois qu'on a réalisé ce rapport, qu'on met donc en perspective, hein, politique, droit de l'homme, juridique, sanitaire, voilà, bon, on n'est pas des pros, très sincèrement, nous ne sommes pas des médecins, on est bien conscient de certaines limites de notre association. On adresse ce rapport intitulé, ça ils n'ont pas aimé, hein, ça aussi, Taser, dernière GGN au pays des droits de l'homme, à l'ensemble des députés et sénateurs, donc qui accueillent, on va dire, plutôt favorablement ce rapport, en dépit de ce titre quelque peu shocking. Et donc là, voilà, on a une série, une batterie de questions et qui valent toujours la même réponse, quels que soient les ministres. Alors même que cette arme, à l'époque, elle n'était même pas classée. Alors on se dit, c'est quoi cette histoire?
Donc n'importe qui pouvait acheter ce pistolet dans un marchand.
Ben, il y avait une zone de non-droit, c'est-à-dire c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est une lacrymo? Est-ce que c'est une batte de baseball? Alors c'est une arme en effet, mais ça ressemble à quoi? Et donc là, quand même, voilà, le ministère, ça, bon, quand même, c'est, malgré tout, ouais, l'État français jacobin, il faut quand même réguler, c'est pas possible. On va quand même pas laisser ça partir en vrille. Et donc, ils mettent ça au titre de quatrième catégorie, donc, c'est-à-dire, c'est les mêmes armes que le 357 Magnum, le fusil à pompe. Moi, je suis pas un spécialiste des armes, mais bon, vous pouvez imaginer que ce sont des armes un peu costaud, hein, voilà, on est loin du non létal, non mortel. Voilà, donc ça c'est, je dirais, une première victoire, même si quand même ça ne paraissait pas une victoire, ça me semblait quand même être la moindre des choses.
Mais en fait, typiquement, on avait une société qui était arrivée avec un super attaché commercial, qui était allé voir notre super ministre de l'Intérieur, qui était en pleine campagne pour ce qu'il allait pouvoir faire ensuite, et qui arrivait avec l'arme magique, et tout d'un coup on nous disait, on a fait une phase d'expérimentation, voilà, ça a été tiré 130 fois, on publie pas le rapport, mais on va l'implanter partout en France. Donc le seul réflexe qu'on a eu, nous, étant donné qu'on était déjà assez vigilant sur ces questions de rapport entre la police et les citoyens, c'était d'alerter les députés. Donc c'est suite à ces 17 ou 18 questions des parlementaires qu'il y a eu un arrêté ministériel classant l'arme en quatrième catégorie. Mais si il n'y avait pas eu 3 clampins derrière leur canapé en train de dire « Attendez, on est en train de nous faire avaler des coups d'œuvre », ce serait passé comme ça tranquillement, personne ne disait rien. Donc finalement, ce rapport a eu quand même un certain écho. Ceci dit, le classement d'armes de quatrième catégorie permettait justement d'interdire que la police municipale en soit dotée. D'où ensuite, en fait, un certain nombre de maires qui s'étaient montrés très intéressés par ce Taser, puisqu'ils avaient également été démarchés par la société qui distribue Taser en France, hein, là encore très bon commercial, s'en étaient dotés. Ils ont été rappelés à l'ordre par leur préfet, qui leur ont dit « Mais enfin, vous avez acheté des armes, elles sont dans vos placards, avec l'argent du contribuable, on le répète, mais vous n'avez pas le droit de les utiliser. » C'est donc suite à ça qu'il y a un certain nombre de maires qui ont poussé Michèle Alliot-Marie, qui était devenue la ministre de l'Intérieur à l'époque, a modifié le décret. Donc le décret qui classait, le décret qui disait que la police municipale ne pouvait pas utiliser des armes de quatrième catégorie a été modifié en spécifiant qu'ils pouvaient se doter de tasers. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, mais enfin, même si on mobilise les députés, même si on fait des rendez-vous avec le cabinet du ministère de l'Intérieur, même si on mobilise les médias, c'est le pot de fer contre le pot de terre. De toute façon, en termes de communication, Taser est très 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 fort, puisque à chaque fois ils sont sur la brèche. Et puis alors, tous les médias à l'époque reprenaient la démonstration du représentant de Taser qui montrait comme c'était génial. Il y a un certain nombre de policiers d'ailleurs qui avaient exprimé des réserves, mais qui ont été vite invités à se taire. On a des journalistes qui avaient eu des témoignages évidemment anonymes, puisqu'il faut savoir que les policiers, pour le tester dans le cadre de la formation, étaient obligés de le tester sur eux. Donc eux-mêmes témoignaient d'une douleur extrêmement violente. Et c'est ce qui nous avait fait réagir aussi au début, quand on voit les images publicitaires de Taser International. C'est un coup de Taser, ça vous immobilise complètement, vous êtes paralysé, vous tombez raide. Donc Amnesty d'ailleurs avait réagi à l'époque, on avait fait une réunion très intéressante où il disait, enfin le mec il tombe, mais il tombe sur un banc, le coup du lapin, enfin, et qu'est-ce qui se passe après? Et nous on a réagi là-dessus encore plus en se disant, mais qu'est-ce qui empêche en plus le flic de mettre un deuxième coup, un troisième coup, etc. Et comme Taser International avait été un petit peu enquiquiné aux États-Unis et au Canada sur cette question, ils avaient trouvé une parade absolument géniale, c'est d'équiper les nouveaux modèles X26, puisque avant il y avait un autre modèle qui était le M26, d'une caméra. Alors très intéressant la caméra, parce que les médias se disent, bon bah les mecs ils ont mis une caméra, c'est super. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra elle se déclenche uniquement quand c'est un tir à bout portant, sachant que c'est deux électrodes qui peuvent être propulsée à 6 ou 7 mètres de long, et elle se déclenche uniquement quand le pistolet est sorti de l'étui. C'est-à-dire qu'en aucun cas on sait quel a été l'usage et pourquoi on a fait intervenir le taser. C'est censé être utilisé en dernier recours. Le fait est que l'ensemble des rapports dont on disposait aux États-Unis, au Canada et ailleurs disaient que la plupart des personnes qui s'étaient pris des coups de taser auraient pu être maîtrisées autrement. Donc c'est là qu'on revient à la question du rapport entre policiers et citoyens. C'est, est-ce qu'il faut juste rompre le dialogue, ou même se dire, si deux flics peuvent mobiliser un mec en état d'ébriété ou qui représente un danger pour l'ordre public, pourquoi est-ce que tout de suite on lui balance 50 000 volts au risque en plus de lui créer des problèmes de santé graves, puisque vous avez dû entendre parler de... On a eu plein de faits divers, mais en fait, les cumuls de faits divers font pas forcément une analyse. Mais il y a eu quand même ce Polonais qui est mort à Vancouver, et des cas comme ça, on en a plein.
Au Canada, c'est ça. Hein.
Exactement. Il y en a plein, mais bon, c'était uniquement des faits divers, voilà. Donc, à prendre ou à laisser. Donc, il y a eu la modification du décret qui est passé en catimini, qui nous a conduit, nous, faute d'avoir de réponse de l'État et de relais des médias, à se dire on attaque le Conseil d'État. Sachant quand même qu'entre-temps, il y avait le Comité contre la torture de l'ONU, le Comité européen contre la torture et un certain nombre d'autres structures, quand même, des institutions. C'est pas des gars dans une asso qui s'amuse, qui disaient c'est une arme qu'on peut considérer comme une arme de torture, puisqu'on peut pas maîtriser son usage. Ce qui n'empêchait pas Taser de continuer à faire sa communication et nos politiques de dire c'est super, c'est génial parce que ça protège la police. Le Conseil d'État, enfin, nous a donné raison en annulant l'utilisation du Taser, la dotation du Taser au niveau de la police municipale, puisqu'il considérait que les policiers municipaux n'étaient pas assez formés. On avait, nous, posé un recours également pour la police nationale, parce que même s'ils sont mieux formés, enfin, c'est pas trop la question, ça remet pas en cause le fait que cet usage peut être disproportionné, que les risques sont réels. Et aujourd'hui, c'est Taser International lui-même qui reconnaît que le Taser peut être dangereux et il faut faire très attention en tirant.
Donc, ce qui rentre en contradiction avec donc la société qui commercialise Taser en France, qui vous a attaqué en justice, en fait. Vous pouvez rappeler les faits, vous et puis Besancenot ensuite, c'est ça.
Juste donner quelques précisions. Donc, en fait, s'agissant du décret qu'on a attaqué au Conseil d'État, et donc le Conseil d'État nous a donné raison, donc voilà, c'est quand même 17 000 policiers municipaux qui étaient potentiellement dotés de cette arme. Donc voilà, pour nous c'est une victoire, qui est une victoire salutaire, et il était quand même temps, voilà, qu'il y ait une autorité judiciaire qui rappelle un peu le gouvernement, justement qu'on est dans un État où a priori il y a certaines règles qu'on dépasse pas, et notamment c'était la question du contrôle, c'est-à-dire que y a la police municipale, a priori, elle est municipale, donc il n'y a pas de contrôle national, donc il n'y a aucun contrôle a priori, et a posteriori l'usage, c'est-à-dire il n'y a aucune base de données, on ne sait pas pourquoi le policier aurait fait usage de son arme. Voilà. Donc ils disent bon, il y a un manque d'encadrement de l'usage de l'arme. Et malheureusement, ils nous indiquent que bah, du côté de la police nationale, certes, cette arme est dangereuse. Hein, le Conseil d'État indique quand même formellement, donc maintenant c'est quand même plus un scoop, que cette arme a des dangers voilà, qui sont susceptibles d'entraîner la mort. Donc voilà, c'est pas nous qui le disons, parce qu'on attaque là-dessus, on en parlera, mais c'est bien le Conseil d'État. Donc voilà, on est plutôt contents, on pense que ça va nous aider. Mais donc, au niveau de la police, est-ce que je reviens au Conseil d'État, on a perdu au niveau de la police nationale. Voilà, donc maintenant, on va saisir très clairement la Cour européenne des droits de l'homme. C'est quand même malheureux d'être obligé d'aller au plus haut niveau possible pour être entendu. Enfin, je veux dire, j'ai le sentiment, alors peut-être à tort, parce que je baigne un peu là-dedans, et de manière générale dans notre mouvement également, mais je pense qu'on a gagné une partie quand même de la bataille de l'opinion publique. J'ai pas le sentiment que, autant à l'époque, quand le truc a été lancé, c'était un peu la fête, il y avait le côté novateur, technologie, c'est fantastique. Je crois que la couleuvre, peut-être qu'en France, on l'a mangée au départ, mais là, franchement, j'ai le sentiment que... peut-être à tort, je dis bien, mais ça passe plus aussi facilement qu'avant. Et là, malgré tout, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le ministre de l'Intérieur, 3 heures après, mais c'est quand même hallucinant, 3 heures après une décision du Conseil d'État, et je peux vous le dire, décision du Conseil d'État en matière des droits de l'homme, c'est très rare qu'elle donne raison à des associations ou à des ONG. C'est une victoire, pour moi, c'était vraiment historique, parce que en matière de défense des libertés publiques, bon, bah voilà, le Conseil d'État quand même s'attaque rarement au gouvernement. Donc là, on arrive et on se dit, tiens, c'est bon, on a peut-être enfin, il y a peut-être une brèche, peut-être que le gouvernement va peut-être s'interroger. 3 heures plus tard, on dit, ah ben non, on va faire un nouveau décret. Voilà, donc maintenant, on espère, on va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, on va lui demander de s'activer. Et le cas échéant, si on gagne, il n'y aura plus aucun taser en Europe. Donc, affaire à suivre.
Pour revenir peut-être sur ce qui s'était passé à la suite du rapport, donc on avait envoyé ce rapport en 2006 à l'ensemble des députés et à la presse. Et je ne sais plus si c'est cette année ou l'année d'après, on a fait une petite fête le 21 avril pour fêter notre naissance et marquer un petit peu le coup de cette date historique. Et on avait appelé notre fête anti-taser, je ne sais plus ce qu'on... On avait fait un flyer sur lequel apparaissait un signe d'une personne en train de se faire électrocuter. Ce qui nous a valu une attaque en justice de la part du distributeur de taser international en France qui s'appelle SMP Technologies, qui nous a accusé de dénigrement du nom commercial et de la marque. Donc ils nous ont attaqué auprès du tribunal de grande instance de Paris en nous demandant rien moins que 60 000 euros de dommages et intérêts.
Non, 50 000 euros de dommages intérêts, 8 000 euros de droits de publication, 2 000 euros de frais d'avocat, c'est important.
Voilà, autant vous dire que notre budget est carrément assez loin de ça. Hein, on a des cotisations de membres à 6 euros. Enfin bon, bref, c'était complètement disproportionné. Et
donc, voilà, donc on a attaqué sur la base donc, d'un flyer qui a été vu par 200 pauvres personnes sur notre site internet, même si c'était une sacrée fête, on avait au moins 1000 personnes. Franchement, c'était très sympa. Et donc à cette soirée électrochoc, puisque j'ai trouvé la chose devant moi, donc c'est un robot qui tient en effet un taser très très funky, rouge, orange et jaune, avec en effet une cible, une espèce de signalétique où il y a un bonhomme qui, vous savez, comme quand les gens tombent dans le métro, on dit attention, faut faire gaffe, voilà, il y a un petit éclair, bon, visiblement voilà. c'est on pense qu'il y a un danger. Et on est aussi attaqué, évidemment, sur son dénigrement donc de l'image et de la marque commerciale Taser. Bon, très bien, on comprend. Et le top du top, c'est quand même
dépassement des limites de la liberté d'expression.
On a trouvé ça assez fabuleux, quand même. Donc, on a attaqué, voilà, parce qu'on a dépassé les limites de la liberté d'expression.
Donc, concrètement, ça s'est passé après qu'il y a eu les questions des parlementaires. Donc, on commençait un peu à être des empêcheurs de tourner en rond, même si, à notre insu, on servait aussi la notoriété de Taser, puisque finalement, les médias se sont un petit peu emparés du débat. Et juste après, en fait, il y a... Olivier Besancenot, qui a été interviewé au Grand Journal de Canal+, qui a cité le rapport et qui s'est exprimé sur le taser. Donc, dans la foulée, lui a été attaqué pour diffamation, simplement parce que l'attaque a eu lieu dans les 3 mois, donc il pouvait faire diffamation et nous dénigrement. Donc, le procès a eu lieu. Donc, autant vous dire que pour nous, ça a été une vraie galère parce que ça veut dire mesurer chacun de nos propos, trouver un avocat qui veuille bien nous défendre gratuitement parce que, évidemment, on n'a absolument pas les ressources pour ça. Et puis, mettre quand même une sorte de frein à notre campagne, même évidemment, ce n'était pas notre volonté, mais bon, quand on vous demande 60 000 euros et que notre président pouvait potentiellement aller en prison, 11 et moins les malins. Non,
ça, c'est faux.
Ouais, enfin bon.
C'est entre nous.
Pour autant, c'est ce qui est qualifié au Canada de quelque chose dont vous allez certainement entendre parler, puisqu'on va se mettre un peu sur ce sujet. Ça s'appelle les poursuites Bayon. C'est-à-dire, c'est quand un acteur économique a les moyens financiers et de communication aussi de faire taire des petites structures qui, pourtant, ne disent rien moins que des choses qui sont avérées. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments que nous, on a présentés aux députés, aux journalistes, on cite nos sources. Nos sources, c'est des gens comme Amnesty International, comme des organisations qui sont reconnues. Mais voilà, hein, vous êtes petit, on va vous faire plier. Puis bizarrement, les autres ne sont pas attaqués. Hein. Amnesty International n'avait pas été attaqué pour la même raison. Pour une d'autres, oui. Mais bon. Bref, le procès a eu lieu. Et SMP Technologies a été débouté, mais fait appel contre Red Hat, mais pas contre Besancenot et tout ça. Donc on attend toujours la date pour passer. Et c'est quand même assez intéressant, puisqu'ils nous attaquent parce qu'on a dénigré en disant que son arme pouvait tuer des gens. Eux-mêmes, aujourd'hui, en tout cas la société internationale, dit que l'arme a des réels dangers et peut tuer des gens quand le choc intervient au niveau de la poitrine et peut donc causer des arrêts cardiaques. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Arnaud, notre secrétaire général, à qui je fais une petite dédicace. On a eu le tort d'avoir raison trop tôt.
Et donc récemment, il y a donc un rapport, ce qu'on appelle le rapport Braidwood. Donc en 2008, donc il a été en fait Amnesty a parlé de ce rapport récemment, mais bon, c'est un rapport qui a eu lieu en 2008. Qui s'est fait au Canada suite à ce Polonais qui est mort après avoir été touché par un taser. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport? Parce que j'ai l'impression qu'aussi au Canada et aux États-Unis, finalement, il y a une mobilisation qui se développe.
Tout à fait. Donc, au Canada et aux États-Unis, il y a un grand mouvement qui est lié au mouvement des défense des droits civiques, voilà, qui s'est emparé de cette question-là. Et pourtant, même aux États-Unis, voilà, l'usage de l'arme à feu est fréquent, bien sûr. Ça n'a pas empêché donc ces mouvements d'être vraiment au cœur de ces actions. Et donc, moi, ce rapport, voilà, a fait l'objet de multiples commentaires. Et ce qui est assez incroyable, c'est que l'entreprise, voilà, se réserve le droit d'attaquer même les gens qui produisent des rapports indépendants. Donc, on attaque des médecins, des docteurs. On trouve, nous, il y a une fameuse revue qui est souvent citée, mais visiblement rarement lue. Nous, on l'a chez nous, la revue, hein. S'il y a certains qui la veulent, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Il y a une revue, donc la revue des SAMU, qui est citée comme quoi, voilà, donc cette arme ne serait pas mortelle, c'est fantastique. Il y a plusieurs articles et tout ça. Elle est citée, mais de manière systématique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'il y a un encart presse. Un encart presse, vous voulez plus d'infos, on a un DVD avec 46 000 articles sur le taser, n'ayez crainte. Donc ce sont des revues dites médicales, et dedans vous avez une pub. Voilà, et donc tout est comme ça, c'est-à-dire qu'on a une instrumentalisation de la justice, de la science. Enfin, c'est vraiment, ça a été vraiment intéressant. C'est-à-dire on s'attaquait vraiment à un problème de droit de l'homme, et maintenant on a été obligé d'élargir notre vision des choses et voir évidemment toute l'implication entre l'économique, le politique, le scientifique. Donc c'est un petit laboratoire de la société contemporaine et qui nous oblige et qui oblige, je pense, de plus en plus chacun à avoir une vision un peu plus globale de son combat.
Pour revenir sur le rapport Braidwood, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, au début, quand on avait commencé à travailler sur le taser, on avait vu qu'il y avait d'autres organisations de la société civile à l'étranger qui avaient essayé et qui s'étaient cassé les dents. Là, il se trouve que ça commence à faire du bruit, qu'il y a un certain nombre de cas qui ont été médiatisés. Donc, enfin, les gouvernements, je crois que c'est le gouvernement du Canada dans ce cas-là, demandent à ce qu'il y ait une étude. Et nous, c'est ce qu'on demande depuis le début. C'est-à-dire, on n'a pas dit on ne veut pas du taser. On a dit assurez-nous que si vous implantez le taser en France, il y a une véritable étude indépendante qui a été produite et qui nous assure que ce truc n'est pas dangereux. Et au départ également, pour peut-être un peu modérer le propos, puisqu'on avait demandé à ce que le taser soit réservé aux unités d'élite de la police, au GIGN, etc. Et là, tout de suite, on nous a dit « ça part en police municipale ». Donc en fait, c'est assez emblématique, peut-être pour revenir sur ces formes de contestation, d'une capacité que peut avoir la société civile, et même à bout d'énormes efforts, arriver un petit peu à faire émerger des sujets, sinon qui seraient laissés aux mains de seules sociétés commerciales. Donc voilà, au Canada, c'est en train de bouger. En France, il semblerait que notre ministre et notre gouvernement restent sur sa ligne de conduite. Mais aujourd'hui, on se dit que c'est pas possible, étant donné l'information de l'opinion publique sur ces questions. Ils peuvent pas quand même nous imposer ce genre de truc comme ça. Donc on demande un rapport indépendant, on demande un moratoire sur l'usage du taser, on demande qu'il soit retiré.
On demande le retrait, très clairement, quoi.
D'accord. Et donc maintenant, vous vous mobilisez surtout ça, contre les sociétés qui attaquent la société civile, c'est ça
enfin, on essaie déjà de les recenser, parce qu'il y a un certain nombre de cas qui sont très méconnus. Il faut savoir aussi que quand on commence à rentrer dans ces postures de combat, l'écho médiatique est moindre. On a très vite fait de passer pour des uluberlus, etc. Et là, très bizarrement, il y a enfin des choses qui se passent, et Taser qui témoigne, qui dit que son arme est dangereuse, etc. Mais nous, on ne nous appelle pas, alors que nous, on cravache depuis 2006 dessus. C'est quand même une certaine frustration. C'est intéressant, justement, que Radio Libertaire nous invite à parler de ce sujet. Ce n'est pas possible de travailler sur ces trucs. Il faut forcément être représentatif et tout ça. Ça pose la question des mouvements de contestation, de leur représentativité, des usages de la communication qu'on peut en faire. Et donc là, concrètement, l'idée, c'est d'essayer de recenser toutes les petites structures comme nous, associatives ou en tout cas de la société civile, qu'on fait les frais de ce type d'attaque, de poursuite Bayon, et d'arriver à monter une campagne plus globale pour dénoncer le poids que peuvent prendre ces grosses sociétés économiques qui arrivent à faire tout simplement par pression financière, fermer leur bouche à des structures qui ont des choses à dire qui sont intéressantes. C'est ça la liberté d'expression en France et partout dans le monde d'ailleurs.
Pourquoi Bayon alors? Ça vient d'où ce terme?
En fait, le terme anglo-saxon, hein,
ça s'appelle
slap. Donc nous, on aime bien, c'est mignon, c'est slap. Voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire strategic lawsuit against public participation, c'est-à-dire les poursuites stratégiques contre l'intérêt public, contre la participation citoyenne. Et donc, en gros, hein, le plus souvent, il s'agit d'entreprises qui, tout simplement, pour défendre leur intérêt privé, s'attaquent à des personnes, bien souvent ce sont des personnes parce qu'elles sont plus vulnérables, à des associations, des ONG.
Des maisons d'édition.
Voilà, pour simplement défendre leur business. Voilà, donc c'est une instrumentalisation de la justice, mais qui dépend évidemment du poids économique et qui est bien souvent au profit du dominant. Et donc ce sont des vrais problèmes. Nous, on a un système juridique en France. Nous, c'est quand même, ça a été une sacrée pression, hein, évidemment, quand on vous dit qu'on vous condamne à 50 000, enfin potentiellement à 50 000 euros de dommages intérêts. Vous faites attention à ce que vous dites, mais il faut savoir qu'au Canada, on en a parlé assez longuement, notamment avec une maison d'édition coopérative qui a publié un livre qui s'appelle Noir Canada, qui dénonce la politique de coopération canadienne en Afrique, également certaines entreprises minières. Ils ont un système absolument hallucinant où à chaque fois qu'un avocat de la partie adverse demande à vous voir, vous êtes obligé de vous y rendre. Et donc si jamais vous ne vous y rendez pas, tout simplement c'est considéré comme une attaque auprès de la cour, c'est-à-dire un déni, c'est-à-dire voilà, c'est comme si vraiment vous refusiez de jouer le jeu. Et donc ça relève du harcèlement judiciaire. La personne, heureusement, elle est prof de fac, mais ça va devenir dingue. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on perd ses amis, on n'a plus de vie privée, on est harcelé du matin au soir. Donc en France, c'est pas le cas, mais en revanche, on a toujours des cas très précis où il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont demandés à des pauvres citoyens qui ont juste voulu à un moment s'exprimer, et bien souvent d'ailleurs de manière sourcée et sans tomber dans une diffamation gratuite et totale.
Bah, concrètement, il y a le cas de Robin des Toits, qui est une structure, une association et une personne particulièrement qui s'était mobilisée sur la question des antennes téléphoniques, qui s'est fait attaquer par Bouygues, SFR et Orange en même temps. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des rapports qui sortent et qui disent attention, il faut qu'on soit vigilant sur les antennes téléphoniques, le wifi et tout ça. Ce mec, il est tout seul dans son coin, il se galère, même si on entend parler dans le milieu associatif et militant, donc on cherche à soutenir. Éco-société au Canada, c'était emblématique. On a eu le cas de Greenpeace et Areva, de ACT UP avec Abbott sur les médicaments. Donc heureusement, jusqu'à présent, en France, la justice a plutôt pris le parti de défendre la liberté d'expression et la capacité qu'ont les associations à prendre la parole. Et ça a été le cas qu'on a eu pour nous, Reda, c'est-à-dire que Taser a été débouté. Pour autant, il fait appel, on est encore dans la procédure. Donc le propos, c'est d'appeler à une mobilisation de l'ensemble des structures, grosses ou petites, et des citoyens qui font les frais comme ça de pression de la part d'un pouvoir économique qui met ses armadas d'avocats contre vous et vous fait taire. C'est ça la poursuite Bayon, c'est qu'on vous empêche de parler.
Voilà, et je dirais si la justice parfois va vraiment dans le bon sens au niveau des associations, le problème il n'est pas là, c'est pas la réponse qu'on donne a posteriori, c'est a priori. C'est-à-dire que le vrai problème c'est quand on se tape un procès. C'est pas le résultat du procès, ça on le sait qu'à la fin. C'est toute la pression qu'on a en amont, avant le résultat du procès. Voilà. Et donc, on voit bien, nous-mêmes sur le Taser, notamment, il y a des blogs qui se font, et clairement, on leur dit, hop, on vous attaque directement si vous nous citez, si vous parlez du nombre de morts et tout ça. Donc, et clairement, les gens, nous, on en a eu, on dit, bah voilà, moi, je fais un lien sur votre site, mais je veux pas vendre en merde, quoi. Donc, carrément, on voit le site de la page complètement censuré, voilà, comme dans les plus beaux temps. qu'on a connu, ou tout simplement l'information n'est pas complète sur un site web. Voilà, on en arrive là.
Bon, on va peut-être passer un morceau de musique.
Je suis pas sûre qu'on ait le temps.
On n'a pas le temps. Bon, alors je vais parler de l'Université populaire donc de Saint-Denis, puisque au mois de novembre on organise donc pendant un cycle de quatre rendez-vous. Donc sur les questions de la surveillance, la frénésie sécuritaire. Donc j'ai pas les dates précises en tête, donc c'est le jeudi à 19h à la Bourse du Travail de Saint-Denis, métro Porte de Paris. Donc le premier rendez-vous, c'est avec Jean-Jacques Rebout, donc qui lui se mobilise donc contre le délit d'outrage. Donc ça concerne également...
Ah oui, on se sent très proche de toutes ces personnes attaquées pour outrage, c'est clair.
Ça sera à 19h, donc le jeudi 5 novembre.
Voilà. Ensuite, on invite Noé Leblanc, qui est journaliste et qui s'est intéressé aux caméras de vidéosurveillance, au marché de la caméra et à son utilité.
Donc le 12.
Donc ça, c'est le 12, donc toujours à 19h. Donc pour rappeler le principe de l'Université populaire, c'est que ça dure, il y a une intervention d'une heure et ensuite un débat pendant une heure avec la salle. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est notamment organisé par des personnes de Radio Libertaire. Autrement, en troisième partie, donc le troisième jeudi du mois de novembre, donc le 19, donc là on va recevoir une politologue qui s'appelle Anastasia Tchoukala, donc une juriste criminologue qui s'intéresse, donc qui est aussi rédactrice en chef associée à la revue Culture et Conflit, et qui se pose la question de la réaction en fait. De la population face à la surveillance, pourquoi dans la vie privée donc les réactions parfois en fait plutôt enthousiastes de personnes pour utiliser un certain nombre de
les raisons de l'acceptation de cette
voilà c'est ça hein, et donc les raisons de cette acceptation et puis donc comment se mobiliser justement comment les opposants à ce tout sécuritaire peuvent agir pour que ça ait un impact sur la société. Et donc en dernière partie,
le 26 novembre,
donc on invite donc le collectif Pièces et Mains d'œuvre, donc de Grenoble, qui s'est beaucoup mobilisé contre les nanotechnologies. Et là, ils nous parleront de liberté et savoir si on va vers une société totalitaire. Ce sera une réflexion politique sur la société aujourd'hui, la société de contrôle, est-ce qu'on peut parler de société totalitaire.
Voilà. Donc, on peut peut-être vous laisser le mot de la fin, si vous avez envie de nous donner un peu déjà votre site internet, et puis nous dire un petit peu ce vers quoi vous tendez là, les prochaines semaines, prochains mois.
Alors le site www.redh.org. Et donc, à l'avenir, nous, ce qu'on souhaite faire, là, c'est travailler sur ce qu'on appelle, c'est barbare, excusez-moi, sur l'effectivité des droits, comment combattre la discrimination de toutes les personnes, toutes les classes, toutes les origines, c'est-à-dire comment on se débrouille pour saisir les tribunaux, multiplier les requêtes auprès de la HALDE, saisir la police des polices, à travers des nouveaux outils, à travers Internet, à travers des guides pratiques, voilà, comment on peut se débrouiller pour multiplier les initiatives de manière pratique, concrète, venant en appui aux citoyens les plus démunis pour que les droits de l'homme, les droits fondamentaux soient effectifs dans notre pays.
Et pour finir, peut-être la dernière chose, c'est mobilisez-vous. C'est un long combat. On a gagné une bataille. Pas encore la guerre, mais c'est le fait que des petits groupes, franchement, on est un petit groupe, arrivent un peu comme ça à faire bouger les lignes qui feront qu'on ne laissera pas une marge de manœuvre trop grande à ces grands groupes qui, eux, par intérêt financier, ont vocation à nous faire taire.
Merci donc Fabrice et Cathy. Donc je rappelle que pour obtenir toutes les informations sur l'Université populaire, donc vous pouvez vous rendre sur le site d'Université, D-I-O-N-Y-V-E-R-S-I-T-E. Vous trouverez l'adresse plus précise sur Internet. Et toutes nos émissions, vous les retrouvez sur le site de Souriez, vous êtes filmé, souriez.info.
Merci.
Merci
à vous.
On va se quitter avec la musique du temps des gitans.
Mmh. Vinilare fata mare.